Le plus souvent, c'est l'histoire, ou plus exactement le temps, qui permet de juger un président, un premier ministre ou un monarque, et de décider s'il était plutôt bon ou mauvais pour le pays qu'il a gouverné. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Déjà, de leur vivant, la plus grande partie du monde considère Mussolini et Hitler comme des despotes sanguinaires. L'inverse est également vrai. Et Churchill commande déjà le respect des Anglais et des Alliés alors que la charge de défendre le monde libre repose sur ses épaules. Pareillement, plusieurs rois de Juda se considéraient comme de bons souverains parce que leur règne est marqué par d'importantes réformes religieuses et par un renouveau spirituel du peuple. À partir du chapitre 25 du livre des Proverbes débute le second recueil des maximes de Salomon. Je commence à le lire. Voici encore des proverbes de Salomon. Ils ont été transcrits par les fonctionnaires d'Ézéchias, roi de Juda. Proverbe 25, verset 1er. Ézéchias fait partie des bons rois parce qu'une fois au pouvoir, il débarrasse Juda de l'idolâtrie, remet en route le fonctionnement du temple, rétablit le culte à l'Éternel. Deux Chroniques 29, verset 31. Ainsi que le chant des psaumes, 2 Chroniques 29, verset 30. C'est Ézéchias qui, 250 ans après qu'il a été rédigé, ordonne cette collection de proverbes attribués à Salomon. Ce sont certainement des copistes qui, au fil des siècles, ont recueilli ici et là, dans des manuels partiels et par la tradition orale, ces maximes de Salomon. Ils sont consignés dans un recueil que nous avons dans les chapitres 25 à 29 du livre actuel des Proverbes. Je continue. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire des rois, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Proverbe 25, verset 2, comparé avec 1 roi, chapitre 3, verset 9. Dans les quatre premières sentences, Salomon parle du roi, c'est-à-dire de lui-même et de ses successeurs. Il existe une foule de choses, de faits que l'Éternel seul connaît et que l'homme ne peut ni comprendre ni sonder. Dieu habite une lumière inaccessible et l'impénétrabilité de ses voies reflète sa gloire, tandis que le devoir et la gloire du roi est d'aller au fond des choses. Le prophète Ésaïe écrit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, verset 9. Et le livre du Deutéronome rapporte que Moïse a dit aux Hébreux, « Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qu'il a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. » Deutéronome 29, verset 28. Les textes sacrés nous révèlent seulement une infime partie de Dieu et de la création, ce que nous sommes capables de comprendre. Ma responsabilité est d'étudier les Écritures afin de savoir ce que Dieu attend de moi. Jésus a dit aux Juifs, « Vous sondez les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. » Jean chapitre 5, verset 39. Les chefs d'État, appelés à diriger un pays avec sagesse et justice, devraient chercher à comprendre leur époque et où ils se situent dans le plan de Dieu pour les âges. Je continue le texte. Vous ne pénétrerez pas le cœur d'un roi, pas plus que vous ne pourrez mesurer la hauteur du ciel ou sonder les profondeurs de la terre. Proverbe 25, verset 3. Dans la première collection des Proverbes de Salomon, les métaphores sont très rares. Mais dans cette seconde collection, on a 25 comparaisons. En tant que roi légitime de la lignée de David établie par l'Éternel, Salomon a reçu l'Esprit de Dieu pour le guider, ce qui fait que ses actions ne sont pas toujours compréhensibles. Tout comme l'Éternel garde un savoir caché, le roi fait de même vis-à-vis de ses sujets, à un autre niveau. nous ne pouvons pas toujours deviner pourquoi ceux qui nous gouvernent agissent comme ils le font, parce qu'ils doivent tenir secrètes certaines informations qu'ils possèdent et qui concernent la sûreté de l'État. Bien sûr, s'ils abusent de leur pouvoir, mais ça, c'est un autre sujet. Je continue. Si l'on délivre l'argent de ces scories, l'orfèvre pourra le travailler et en faire un vase. Si l'on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira par la justice. Proverbe 25, les versets 4 et 5. Comparé avec Proverbe 16, verset 12, 20, verset 8, 26 et 29, 12 et 14. Le politicien ou l'homme d'affaires qui consulte des conseillers iniques court à la catastrophe, et ceux qui sont sous son autorité également. Pour avoir consulté des piètres conseillers, Roboam, le fils de Salomon, a provoqué la scission d'Israël en deux royaumes. Quand je dois prendre une décision importante, je cherche conseil auprès de personnes que j'estime avisées. Je continue. Ne fais pas l'important devant le roi, et ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise « Viens t'asseoir plus haut à cette place d'honneur » que de te voir humilié devant les nobles. Proverbe 25, les versets 6 et 7. Si devant un personnage important, j'usurpe la place qui revient à quelqu'un qui est plus digne que moi, je m'expose à de durs froissements de mon amour-propre. Jésus a illustré cette vérité avec une parabole. Un homme important invite la haute société du coin à une somptueuse soirée. Il réserve des places à sa table à certains de ses amis qu'il veut honorer. Mais quand il annonce que le repas est servi, c'est la ruée sur la table d'honneur comme si elle était couverte de lingots d'or. Ayant sans doute assisté à une scène semblable, Jésus a dit aux religieux juifs, « Si quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur. Peut-être y a-t-il, parmi les invités, un personnage plus important que toi. Et celui qui vous a invité l'un et l'autre, viendra-t-il te dire « Cède-lui cette place ». Il te faudra alors, honteusement, gagner la dernière place. Non, quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place. Alors, quand ton hôte entrera dans la salle, il te dira « Mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi, viens t'asseoir plus haut. » Ainsi tu seras honoré devant tous les convives. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, les versets 8 à 11. Je continue le texte. « Mais si tu as vu quelque chose de tes propres yeux, ne te hâte pas de t'engager dans un procès. Tu t'exposerais à ne plus savoir quoi faire par la suite si quelqu'un d'autre te confondait. » Proverbe 25, verset 8. Un procès est une démarche risquée. Avant de se lancer, il faut bien réfléchir. Proverbe 24, verset 28. Parce que c'est s'engager dans une bataille dont l'issue est incertaine. Luc 14, les versets 31 et 32. Le second livre des Chroniques, chapitre 35 et les versets 20 à 24, rapporte une expédition militaire qui illustre bien la nécessité de la plus grande prudence. Josias est un très bon roi qui a conduit des réformes religieuses extraordinaires dans le royaume de Juda. Malheureusement, sa couronne de laurier et sa popularité lui montent à la tête. Il devient fier et sûr de lui jusqu'à se croire le plus fort du monde. Sur ces entrefaites, le pharaon part en campagne contre le roi d'Assyrie. Apprenant la nouvelle, Josias, qui doit avoir les doigts qui le démangent, gonfle la poitrine et décide, comme ça sans raison, de barrer la route au pharaon. Apprenant cela, ce dernier lui fait dire quelque chose comme « Écoute, ne te mêle pas de mes affaires ou ça va mal finir pour toi. » Mais devenu arrogant, Josias prend la mouche, attaque le pharaon et se fait tuer. Cette histoire me fait penser à au moins deux proverbes, je les cite. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit la nuque sera brisé tout d'un coup et sans remède. Celui qui se mêle d'une querelle qui ne le regarde pas attrape un chien par les oreilles. Proverbe 29, verset 1er, 26, verset 17. Cela dit, il faut quand même nuancer et prendre aussi en compte un autre proverbe qui dit « Délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui vont chancelant au supplice. » Proverbe 24, verset 11. Je continue le texte. « Règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre, sinon il pourrait l'apprendre et t'injurier. » Et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. Proverbe 25, les versets 9 et 10. Porter une accusation en public est une opération risquée. Il vaut bien mieux régler un contentieux en tête-à-tête. Mais si tu dois aller en justice, soutiens ta cause sans révéler d'informations indiscrètes inutiles, car c'est ouvrir la boîte de Pandore et de déclencher une riposte qui nuira à ta renommée. Je continue. Des paroles justes, dites au bon moment, sont comme des oranges d'or sur un bel objet d'argent ciselé. Proverbe 25, verset 11. Il est intéressant de savoir que jusqu'au Moyen-Âge, la ciselure des métaux précieux s'appelle œuvre de Salomon. Israël est un producteur d'agrumes et les oranges de Jaffa sont renommées. Et c'est ce qui explique ce proverbe. Moi, je dis souvent une parole appropriée à une situation, mais au mauvais moment. Ou bien, si je parle au bon moment, c'est pour m'apercevoir que j'aurais eu meilleur compte de ne rien dire. Il y a certaines paroles qui ont le don de dire la bonne parole au bon moment. Proverbe 15, verset 23, chapitre 24, verset 26. Que ce soit pour consoler ou corriger, il est bon de s'entourer de gens aussi précieux. Dans une petite église de campagne, une vieille dame a la réputation de toujours dire une parole agréable au prédicateur de service. Un dimanche que le sermon est particulièrement déplorable, les paroissiens se massent à la sortie pour écouter ce que cette brave dame va dire cette fois-ci. S'appuyant sur sa canne, elle s'arrête donc devant le prédicateur et s'exclame : Il faut que je vous dise que je suis vraiment ravi que vous avez choisi un de mes textes préférés. » Ce commentaire est vraiment une orage d'or encadrée d'argent. Je continue le texte. Un avertissement donné par une personne sage est reçu d'une oreille attentive et comme un anneau d'or avec sa parure d'or fin. Proverbe 25, verset 12. Un joyau de prix fermé par une boucle et son pendant convient parfaitement à l'oreille d'une jolie femme. Mais la réprimande d'un sage à quelqu'un qui accepte d'être corrigé est encore un plus bel ornement. Tôt ou tard, tout le monde est dans la situation où il a besoin d'une remontrance. Moi, je me suis déjà fait passer un savon et remonter les bretelles un nombre incalculable de fois. Et ce n'est jamais bien agréable. Faire des reproches à un insensé est comme un coup d'épée dans l'eau ou cracher en l'air. Ou pire, car il risque de voir rouge et de sortir ses gongs. Par contre, et comme dit le proverbe, l'oreille attentive à la réprimande salutaire fait sa demeure parmi les sages. Proverbe 15, verset 31. Je continue le texte. Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Proverbe 25, verset 13. En Israël, il ne fait jamais froid au point de neiger pendant la moisson. Et ce serait une catastrophe. La neige dont il est question ici sert à rafraîchir les boissons. Elle provient du mont Hermon, un massif montagneux frontalier entre la Syrie et le Liban qui culmine à 2814 mètres d'altitude. Jusqu'au siècle dernier, à une quinzaine de kilomètres de Damas, durant l'hiver, les habitants du village de Menim entassent de la neige dans une caverne et en été, ils vont la vendre dans la capitale syrienne ainsi que dans d'autres villes du littoral. Pour attirer le chaland, le vendeur vend alors les mérites de sa marchandise en criant « Prends garde à tes dents !» L'inestimable bienfait d'une boisson glacée pendant la canicule est comparable au messager fiable et sûr chargé d'une affaire importante. Il est bien vrai que les gens sur qui on peut vraiment compter n'ont pas de prix. Proverbe 13, verset 17. À ceux qui lui sont fidèles, au jour du jugement, Jésus dira « Bon travail, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. » Matthieu 25, verset 21. Je continue le texte. Celui qui se vante de la libéralité sans rien donner fait penser à un nuage amené par le vent et qui n'apporte pas la pluie. Proverbe 25, verset 14. Le vent et les nuages sont généralement annonciateurs de pluie. Mais s'il ne pleut pas, l'agriculteur est déçu. Pareillement, celui qui parle dans le vide en faisant des promesses qu'il ne va pas tenir est particulièrement frustrant. Dans son épître Jude, chapitre 12, utilise la même image pour décrire les faux prophètes comme ceux qu'on trouve un peu partout dans le protestantisme. Je continue. Par la lenteur à la colère, on persuade un juge et la langue brise les os. Proverbe 25, verset 15. Devant un tribunal, il est important de garder son sang-froid. Celui qui ne sait pas se contrôler inspire la méfiance. Par contre, même la résistance la plus opiniâtre peut céder devant des paroles douces. Je continue. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qu'il te suffit, car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine. Proverbe 25, les versets 16 et 17. Il ne faut pas abuser des bonnes choses sous peine de le regretter. Enfin, je raffolais des poireaux en vinaigrette jusqu'au jour où j'en ai trop mangé. Je suis parti en voiture et je vous ferai grâce du reste. Depuis, j'en mange très rarement. Je ne trouve pas que c'est un mets extraordinaire. C'est un peu pareil pour l'amitié. Il faut en user avec modération et ne pas tirer sur la corde au maximum. Quand je suis invité, je ne m'éternise pas afin de ne pas entendre la maîtresse de maison penser « J'aimerais bien que ce casse-pied retourne chez lui et y reste. » Il faut éviter d'outrepasser le bon accueil qu'on a reçu. Inversement, je n'apprécie pas ceux qui s'incrustent comme des bernacles sur les coques de bateau. Je continue le texte. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Proverbe 25, verset 18, comparé Proverbe 6, verset 19. Un faux témoin assomme, sépare et perce. Il fait autant de mal que des armes meurtrières parce que le mensonge peut sérieusement entacher la réputation et le caractère de quelqu'un et même les détruire. Je continue. Dents qui se cassent et pieds qui cèdent et la confiance en un perfide au jour de la détresse. Proverbe 25, verset 19. En d'autres mots, au jour du malheur, si j'appelle et je me fie à un homme déloyal, c'est comme si je m'appuyais sur une dent branlante ou un pied chancelant. C'est une initiative catastrophique. Imaginez une situation où vous demandez à quelqu'un de témoigner en votre faveur et il fait exactement l'inverse et vous enfonce. Le pauvre Job a connu ça puisqu'il a dit « Mes amis m'ont trahi comme un torrent, comme un de ces cours d'eau dont le lit est à sec. » Job 6, verset 15. Je continue le texte. Entonner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid ou verser du vinaigre sur du salpêtre. Proverbe 25, verset 20. L'acide, su du carbonate de soude, produit une réaction chimique très vive et dangereuse. La Septante, qui est l'ancienne version grecque, dit « du vinaigre sur une plaie », ce qui revient au même, car dans un cas comme dans l'autre, les trois comportements que mentionne le maître sont absurdes, violents et ils font mal. Je continue. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête, et l'Éternel te le rendra. Proverbe 25, les versets 21 et 22. Dans son épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 20, l'apôtre Paul rappelle aux croyants qu'il ne doit pas chercher à se venger lui-même. Puis il cite ce proverbe pour expliquer comment se comporter envers un ennemi. La mention des chardons ardentes a deux origines. En premier lieu, c'est un rituel d'expiation égyptienne où le coupable d'une faute porte une massine de braise sur la tête pour signifier sa repentance. Deuxièmement, dans l'Antiquité, le maître de maison dont le foyer s'éteint doit aller chez un voisin sympa pour lui demander quelques braises qu'il ramène chez lui dans un récipient qu'il porte sur la tête. Ce proverbe prescrit qu'il faut pouvoir, aux besoins élémentaires, d'un ennemi en lui donnant à boire, à manger et en pansant ses plaies, ce qui sont des actes de compassion. La manifestation d'une telle bonté, en réponse à la méchanceté d'un individu, doit susciter en lui un grand malaise et l'inciter à se repentir de sa conduite et de ses mauvaises dispositions. Je continue le texte. Une langue qui dit du mal en secret engendre des visages irrités aussi sûrement que le vent de la région cachée aux enfants la pluie. Proverbe 25, verset 29. La médisance provoque toujours la colère des intéressés parce que personne n'aime qu'on lui casse du sucre sur le dos. Être trompé, voir ses secrets révélés ou sa réputation écorchée. En effet, le maître a déjà dit que le fourbe sème la discorde et le rapporteur jette la brouille entre des amis. Proverbe 12, verset 28. Comparé Proverbe 26, verset 20. Je continue. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Proverbe 25, verset 24. Cette maxime, identique à une précédente dans Proverbe 21, verset 19, se passe de commentaires. Salomon, qui possède un harem de 1000 femmes, doit savoir de quoi il parle au vu des problèmes qu'il a eus à cause de certaines d'entre elles. Pourtant, il est très difficile de comprendre pourquoi un homme comme Salomon, qui aimait Dieu et qui avait son esprit, a pu se livrer à l'idolâtrie. Mais c'est ce qu'il a fait afin de satisfaire certaines de ses femmes. Ce que il lui est d'ailleurs valu d'encourir la colère de l'Éternel. Je continue. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Proverbe 25, verset 25, comparé avec Proverbe 15, verset 39. On a coutume de dire « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Et en réalité, on apprécie beaucoup recevoir des nouvelles fraîches par courrier ou téléphone d'un vieil ami ou d'un parent qui se trouve dans un pays lointain, ou qu'on croit disparu. Ce fut le cas de Jacob, qui, ayant fait le deuil de son fils Joseph, était dans une très grande tristesse. Cependant, ses autres fils sont revenus d'Égypte et lui ont dit « Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte ». Mais il ne réagit pas parce qu'il ne les croyait pas. Il lui répète tout ce que Joseph avait dit, puis Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Alors, ce fut comme s'il reprit vie. Genèse 45, les versets 26 et 27. Aujourd'hui, on peut correspondre instantanément ou en quelques secondes d'une extrémité de la planète à l'autre grâce aux moyens modernes de communication. Mais dans l'Antiquité et jusqu'à l'invention du télégraphe, les nouvelles se propagent à la vitesse de l'escargot. Il faut 2 semaines, sinon 1 mois, pour qu'une lettre parvienne de Chine en Europe, par exemple. La bonne nouvelle qui fait du bien fait aussi penser aux paroles de Jésus qui a dit « Je suis venu du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. » Jean 16, verset 28. La bonne nouvelle par excellence qui nous est parvenue d'un pays lointain, c'est-à-dire du royaume de Dieu, est que Jésus est né à Bethléem, qu'il est mort et ressuscité afin de devenir mon sauveur et le vôtre. Puis, le salut accompli, il est retourné dans la gloire céleste. Et c'est ainsi là que vous et moi sommes invités à nous rendre. Mais pour y entrer, il faut faire entièrement confiance à Jésus et à lui seul, car il a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Jean chapitre 14, verset 6.